Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'heure du crime avec toute notre petite équipe vaillante, avec Perrine Suquet bien sûr, Margot Agnès, et puis aujourd'hui c'est Marc Bisset qui est à la technique de l'heure du crime et à la une de notre émission. Vous l'avez entendu tout à l'heure quand on en parlait avec Christelle Rebière et Vincent Parisot, cette adresse de sinistre mémoire, 93 rue Lauriston dans le 16e à Paris, pas loin des Champs-Élysées, le siège de ce qu'on a appelé la Gestapo française, une bande de malfrats, une organisation mafieuse dirigée par un couple étrange, un voyou et un ancien flic, Henri Lafont, et puis le fameux inspecteur Bonny de l'affaire Stavisky, de l'affaire Seznec, de l'affaire Prince, qui avait été destitué de la police et qui a retrouvé du galon donc à travers cette sinistre entreprise dont nous parlons grâce à mon invité David Alliot. Bonjour.
Bonjour à vous.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes romancier, biographe, et évidemment vous êtes devenu, si j'ose dire, un spécialiste de cette période, de ces 4 ans de collaboration, des années noires, vraiment de la Deuxième Guerre mondiale, ici pour les Français, à travers en fait Louis-Ferdinand Céline, dont vous êtes un spécialiste.
Bah, tout à fait, ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur Céline, et quand on s'intéresse à un grand écrivain, qui a été en plus un écrivain emblématique pendant l'occupation, forcément on s'intéresse un petit peu à tout ce qui tourne autour, et donc mécaniquement à toutes ces crapules qu'il a côtoyées.
Voilà, et on découvre donc, à part d'autres écrivains antisémites comme Robert Brasillach ou d'autres noms qu'on a entendus comme ça, une espèce d'inventaire à la Prévert, de gens qui ont profité de cette période de la collaboration mettre en œuvre des projets qui ne pouvaient pas émerger avec la République française. Finalement, je pense à des indépendantistes, qu'ils soient alsaciens ou bretons, à des hommes politiques, évidemment. Vous parlez de certains d'entre eux, Abel Bonnard. Vous parlez de ceux qu'on ne connaît pas très bien. Et expliquez-moi comment vous avez eu l'idée de ce livre, alors qui s'intitule Le Festin des Loups et qui vient de paraître aux éditions de la librairie Vuibert.
Tout à fait. En fait, l'occupation n'a pas été perdue pour tout le monde. Certains ont pu voir pendant cette période, ont pu assouvir leur esprit de revanche, que ce soit social, économique, etc. Et le nouvel ordre instauré par l'État français, effectivement, permet à ces gens-là qui, on va dire, en temps normal, n'auraient jamais eu accès aux responsabilités, là, ils se retrouvent au premier plan. Ouais. Et ils se trouvent, on va dire, des oreilles attentives, notamment allemandes, pour les promouvoir, les aider, etc., et leur faire accéder à des postes de premier plan et de commettre des dégâts. Alors, effectivement, sur l'occupation, il y a beaucoup de livres déjà sur le sujet, puis c'est un sujet d'actualité en ce moment. Et effectivement, avec mon éditeur, on a voulu aborder les seconds couteaux. Mm-hmm. Parce que sur Pétain, Laval, il y a plein de bons livres sur le sujet, Darlan et compagnie. Ouais. Donc, j'invite le lecteur à aller en librairie et les consulter, les lire, c'est très intéressant. Mais effectivement, ce qui est intéressant, ce sont les seconds couteaux. Les gens qui sont, on va dire, pas forcément au premier plan, mais dont les actions, elles, par contre, sont assez emblématiques, mmh, et qui font des dégâts, j'ai envie de dire, considérables aussi.
Oui, on peut mettre des noms, Darquier de Pellepoil, oui, le commissariat aux affaires juives, Jacques Doriot, on parlait des hommes, oui, politiques, et des gens qui avaient des mouvements politiques qui, brutalement, ont vu l'occasion, finalement, avec les Allemands, de s'épanouir.
Et Doriot, c'est un cas emblématique, puisqu'il était au Parti communiste jusqu'en 36, exclu du Parti communiste parce que c'était le rival de Thorez, qui, Thorez est préféré par Staline à Doriot, et donc Doriot, en 40-41, effectivement, crée le PPF, qui était le plus grand parti politique de l'occupation.
Alors vous dites au début de votre livre, qu'avec justesse évidemment, que cette période est à la fois une des périodes les plus noires de notre histoire, aussi une des plus controversées, et vous dites en fait, cette réalité, faut la regarder en face, faut pas avoir peur d'en parler, même quand elle est insoutenable encore aujourd'hui.
Oui, parce que au-delà de la période qui effectivement est terrible, c'est toutes les contradictions de la société des années 30. Pendant les années 30, il y a plein de contradictions qui traversent la société française de façon, on va dire, plus ou moins pacifique. Mais là, en 40, là, elles apparaissent, on va dire, en plein jour, et elles apparaissent violemment, puisque les antisémites ont le droit de parole, ils ont même des partis, ils ont même
des journaux,
ils ont même quasiment le droit de tuer, de dénoncer en toute impunité, etc. Donc il y a toutes les contradictions de la société qui vont exploser en plein jour, qui vont apparaître en plein jour. Et là, effectivement, ça devient intéressant parce que on voit des choses qui normalement n'auraient jamais dû exister devenir politiquement effectives.
Oui. Alors, nous, on va beaucoup parler d'Henri Lafont, de... C'est quoi son prénom? L'inspecteur Bonny, j'ai oublié.
Pierre Bonny.
Pierre Bonny. Également d'un certain docteur Petiot, que la presse avait baptisé le docteur Satan.
Docteur Satan, oui.
Parce qu'il y a un grand point d'interrogation sur Petiot, mais on y reviendra tout à l'heure à travers un petit récit et puis une évocation de son procès, qui n'a pas répondu à toutes les questions, hein, mais il s'était fait passer pour un résistant, disait que les gens malheureux dont on avait retrouvé les restes dans sa chaudière de la rue Le Sueur étaient tous des Allemands ou des collabos. Mais en fait, j'ai cru comprendre dans le livre, puisque vous évoquez le docteur Petiot, qu'il y a peut-être aussi d'autres accointances, on va dire, et notamment avec la carlingue. Alors c'est le dernier mot un peu général que je voudrais aborder avec vous avant de rentrer dans l'histoire d'Henri Lafont et de cette Gestapo française. Qu'est-ce que la carlingue?
La carlingue, c'est le nom du siège social de la Gestapo française, qui avait plusieurs bâtiments dans la rue Lauriston. Ils avaient 3 ou 4 bâtiments, mais le 93, c'est l'hôtel particulier où se trouvaient effectivement Bonny et Lafont. C'était effectivement l'adresse la plus prestigieuse où il y avait les fêtes, les réceptions et toutes ces choses-là.
Ouais, vous dites, d'ailleurs, on disait au sous-sol on torture, au rez-de-chaussée on festoie, voilà, au premier, pardonnez-moi l'expression, on baise.
Oui, c'est ça.
Et puis, de toute façon, à tous les étages, on est dans la corruption, voilà, et dans le double jeu. Quoi.
Et c'est les Allemands qui gagnent à tous les étages, ça c'est sûr. Aussi.
Et le mot carlingue, ça, c'est quoi alors?
Une carlingue, c'est une carcasse.
Ça fait penser à une carlingue d'avion.
Voilà, c'est ça, c'est une carcasse, une carlingue d'avion. Le mot, on ne sait pas d'où ça vient, mais tout de suite, la voyoucratie parisienne l'a appelée la carlingue, on ne sait pas pourquoi. Le nom est resté.
Alors, il faut dire aussi que ces gens dont on va beaucoup parler, à travers donc ce que vous en dites dans votre livre, ils avaient des papiers, ils étaient soutenus par les Allemands, donc ils étaient finalement dans l'impunité la plus totale par rapport à la police française.
C'est pour ainsi dire une mafia d'État. Non pas la volonté de l'État français qui s'en serait bien passé de ça, mais c'est une mafia par la volonté de l'armée allemande qui va donner l'impunité totale à ces voyous parce que ils offrent plein d'avantages aux Allemands, notamment une discrétion, de pouvoir travailler quand l'Allemagne ne veut pas apparaître en première ligne, ils les font travailler entre guillemets, on ose imaginer à quoi.
Oui. Ben on va le dire, voilà. Tout à l'heure. Hein.
Et en fait, ils offraient plein d'avantages et donc ils avaient l'impunité, ce qui fait que la police française devait s'incliner devant d'anciens voyous, ce qui devait ne pas être rien.
Alors, la dernière raison pour laquelle votre livre était nécessaire, et vous l'abordez aussi dans le festin des loups, c'est dire que c'est un constat, c'est que les derniers témoins, enfin la plupart des témoins de cette époque ont disparu ou vont disparaître, et qu'il était temps peut-être de remettre un peu les pendules à l'heure sur cette période. Si, et là je m'adresse à ceux qui écoutent cette émission, si vous avez des questions, des réactions, voire des témoignages sur cette période et sur cette Gestapo française, vous pouvez bien sûr nous joindre. 3210 pour les coups de téléphone, c'est le standard téléphonique d'RTL, ou alors rtl.fr si vous préférez les courriels.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
Avec mon invité David Alliot qui publie à la librairie Vuhuvert Le Festin des Loups avec ce sous-titre collaborateur, profiteur et opportuniste sous l'occupation. On a décidé donc de s'arrêter sur cette entreprise mafieuse dont on a commencé à parler, qu'on a appelé la Gestapo française, dont le siège était 93 rue Lauriston. Alors, avant de savoir comment ça s'est constitué, parce que on se dit mais qui a décidé qu'il y aurait une Gestapo française, finalement, et pourquoi des voyous? Il faut parler d'Henri Lafont, mais voir surtout ce qu'il était, cet homme-là, qu'on connaissait dans le milieu sous le nom de Monsieur Henri au début des années 40, mais qui n'était pas, c'était pas un parrain du milieu, c'était pas un seigneur de la pègre. Hein. Et il a eu une enfance extrêmée agitée.
Agitée et misérable, hein, parce qu'il est né en 1912, juste avant la guerre.
À Paris.
À Paris, donc pupille de la nation, enfant abandonné, enfin vraiment on est vraiment dans Les Misérables de Victor Hugo pour sa jeunesse. Et effectivement, pendant l'entre-deux-guerres, c'est une petite vie de petit malfrat, mais vraiment sans envergure. Ouais,
il monte tous les escaliers. C'est l'engrenage de la petite criminalité, quoi. Il va en prison, il rencontre des gens, il ressort, il recommence.
Voilà, mais il faut dire à chaque fois, il y a le casier judiciaire qui suit. Donc, pour trouver du travail après avec tout ça, c'est pas évident.
Ouais.
Et effectivement, en 1940, donc, il va être arrêté une dernière fois pour des petits trafics et il va se retrouver en prison au Cherche-Midi. Et assez paradoxalement, ça va être sa chance, puisqu'à la prison du Cherche-Midi, qui était la prison des espions quasiment, il va se retrouver avec plein de gens a priori suspectés d'espionnage, dont l'espionnage au service des Allemands.
Ouais. Et pendant un Suisse, Max, voilà, Monsieur Max.
Et en mai 40, donc tout le monde est évacué devant l'avancée des troupes allemandes, donc tout le monde est évacué vers le sud de la France. Ouais. Et pendant la pagaille, bien sûr, tout le monde fout le camp, enfin tout le monde parvient à se disperser, on va dire, de façon plus ou moins légale.
Ouais.
Et ce fameux Monsieur Max, en fait, est un agent double au service du Reich.
Ouais.
Et lorsque les Allemands sont à Paris, lui, il a quasiment les portes ouvertes au Lutetia.
Et Lutetia, c'est le siège de la Kommandantur allemande.
Voilà, le siège des services secrets allemands.
Des services secrets, l'Abwehr.
L'Abwehr, voilà. Et donc, il présente son nouvel ami, Monsieur Henri, aux autorités allemandes, qui au début ne sont pas d'un enthousiasme fou, mais ils vont se rendre compte très vite que, grâce à la pègre française, et en leur donnant effectivement les moyens d'agir à ciel ouvert, qu'ils peuvent être beaucoup plus efficaces, notamment pour agir en zone sud, en zone libre, qui est encore sous l'administration de Pétain, s'ils ne veulent pas apparaître, ça peut être utile. Mais surtout, ils ont des réseaux d'une efficacité absolument diabolique, parce qu'ils n'ont strictement aucun remords, et tous les moyens sont bons.
Alors, donc c'est intéressant, en prison qu'il va rencontrer quelqu'un, et c'est comme ça qu'on peut faire le lien avec les autorités allemandes. Alors après, ce qui est complètement fou, moi j'ai découvert ça en vous lisant, on l'envoie, Henri Lafont, avec quelques sbires d'ailleurs allemands, à la prison de Fresnes, et on leur dit, vous choisissez en gros vos futurs collaborateurs. Il fait vraiment sortir des malfrats de prison.
Absolument. Effectivement, Henri Lafont va se constituer une équipe.
Oui.
Alors, vous pensez bien qu'une équipe de mafieux, on ne les trouve pas par petites annonces dans le journal. Donc, il va à Fresnes, et avec un officier allemand.
Il prend les dossiers,
il dit, celui-là, vous me le sortez. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, en plus, il y a des réputations. Vous imaginez en plus avec les surnoms.
Oui, bien sûr.
Dodo le machin, donc en fonction des...
C'est pas encore Dodo la saumure.
Pas encore Dodo la saumure, mais en fonction des réputations de chacun, on va dire dans des disciplines comme les faux monnayeurs, faux papiers, etc.
Ouais.
Ou faux trafic, etc. Ah, donc forcément, il y a des CV intéressants à récupérer là-bas. Et en plus, il va au palais de justice, donc à la préfecture, l'île de la Cité quand même.
Ouais.
Il va toujours avec les officiers allemands, puis il récupère les scellés, où il y avait des millions de francs qui étaient malencontreusement stockés là pour des pièces judiciaires qui vont disparaître. On va dire, c'est sa mise de départ. Il faut bien constituer un capital social quand on crée une entreprise, donc et trouver des collaborateurs. Donc, capital social, c'est le greffe du tribunal, et les collaborateurs, c'est la prison de Fresnes. Donc, un cas assez original.
Les collaborateurs, il y a encore, parce que vous dites d'ailleurs que vous ne voulez pas faire office d'historien. Vous dites, je suis pas historien, je raconte des histoires. Mais dans ces histoires, évidemment, vous cherchez à sourcer vos informations. Personne ne peut dire combien de gens ont travaillé pour Lafont dans la carlingue. On dit 300, d'autres disent, mais il y a 30 000 personnes qui ont collaboré à tout ça.
Le grand malheur dans cette histoire, c'est que Pierre Bonny, avant de disparaître dans la nature en 1944, a brûlé toutes les archives, ce qui nous prive de renseignements, on va dire, extrêmement intéressants. Donc, malheureusement, on ne sait pas précisément combien de gens ont travaillé. Alors, ça peut aller. Alors, les lieutenants de Lafont, on les connaît, il y en avait une dizaine. Il y a un noyau dur, cela, on les connaît. Mais après, eux-mêmes avaient une sorte de cours et on ne sait pas qui a fait l'indic, qui a fait quoi. Donc, c'est extrêmement
libre. Oui, parce que vous dites que ça fonctionnait par cercle. Le premier cercle, c'était les très proches. Puis le deuxième cercle, c'est des gens qu'on allait chercher un peu en fonction de leur spécialité.
Absolument. C'est un système féodal. Il y a le chef en haut et c'est pyramidal avec des lieutenants qui eux-mêmes ont des lieutenants, etc. Ouais. Jusqu'à la base où c'est des indics en tout genre.
Et donc, c'est toujours Lafont qui sélectionnait ses collaborateurs. C'est-à-dire qu'il avait vraiment un pouvoir, d'ailleurs, aussi de vie et de mort ces gens. Parce que s'il commençait à plus lui plaire ou à se faire remarquer dans le mauvais sens, il s'était éjecté.
En fait, Lafont, il avait le pouvoir, c'est qu'il était l'interlocuteur des Allemands. Et c'est Lafont qui donnait les fameux papiers qui assuraient l'impunité totale. Donc il suffisait que Lafont enlève ce papier en disant aux Allemands ou à la police française, il n'est plus de la carlingue, le type devenait arrêtable dans les minutes qui suivaient.
Et ces papiers, c'est ce qui permettait de dire à ces gens qu'on imagine avec les longs manteaux, ce qu'on voit dans les films, de cuir, etc.
Après,
police allemande. Non, mais quand ils...
Ils étaient plutôt habillés en français classique. Ouais. Mais effectivement, quand ils débarquaient, c'était Gestapo française.
D'accord.
Et la police française devait les aider, et même l'armée allemande devait leur apporter soutien.
Ouais. Alors, on va revenir à Lafond dans un instant, mais je l'ai dit, il a mené cette entreprise avec l'inspecteur Bonny, donc Pierre Bonny, qui avait été considéré, et d'ailleurs, je crois que c'est le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui l'avait.
Premier flic de France.
Meilleur flic de France à cause de ses enquêtes dans l'affaire Cézenec, on découvrira après, qu'il y a beaucoup à dire, parce qu'il a peut-être quand même donné des coups de pouce à l'instruction dans le sens de la culpabilité de Cézenec.
C'est peu de le dire, oui.
Je pense à lui là, spécialement, parce que on reçoit, vous voyez, tout à l'heure, je disais, si vous avez connu cette période ou des témoignages, des réactions, on a Denise qui nous a appelé de Niort, qui a 93 ans, et qui nous dit, mais mon mari a été arrêté par l'inspecteur Bonny. Oui. Je suis donc allé le rencontrer pour témoigner. Alors elle dit pour témoigner contre lui. Elle a dû aller au procès pour témoigner contre lui. Et elle dit il était arrogant, méprisant, un vrai bourreau. Alors comment cet homme-là arrive dans l'environnement d'Henri Lafond? Comment se fait ce duo?
Alors faut avoir en tête que Bonny est un ambitieux. Pierre Bonny, il est rentré dans la police très tôt, il voulait faire carrière là-dedans, et pour graver les échelons, il n'hésite pas. Hein. Et d'ailleurs, on suppose même, donc il a trempé dans toutes les affaires, on suppose effectivement que l'affaire Cézenec, a priori, il aurait avoué à son fils à la fin de sa rendez de fusillé que c'est lui qui avait maquillé un petit peu tout ça. On suppose quand même, pour Stavisky, c'est probablement lui qui a donné les fameuses deux balles tirées à bout portant. Hein. Donc, le fameux suicide.
Le fameux article du Canard enchaîné, il s'est suicidé.
Deux balles à bout portant, on suppose que c'est quand même.
Ce qui s'appelle avoir le bras long, parce que c'était à une distance de 2 mètres.
Voilà, tout à fait. Et on suppose que c'est Bonny qui l'a fait, donc, parce que la mort de Stavisky a rongé beaucoup de gens.
D'accord.
Donc, et dans l'affaire Prince, il a magouillé des trucs. Donc,
mais après, il s'est fait virer de la police, avant la guerre. Hein,
juste avant la guerre, parce qu'en fait, il est passé vraiment du pinacle à la chute, parce que le ministre de l'Intérieur dit que c'est meilleur flic de France, et 2 ans après, il est viré sans ménagement, parce qu'on se rend compte que ses méthodes n'étaient pas très...
Il a mis la main dans la caisse, il a piqué de l'argent...
Voilà, au passage. Et donc, lorsqu'il intègre la Kerlingue en 1942, il est présenté par les Allemands à Lafond, parce que bon, la Kerlingue, ils sont efficaces, etc., mais c'est des voyous, donc on va dire l'organisation, la professionnalisation, c'est pas leur truc. Ouais. Et donc, Bonny est là, lui, pour apporter la rigueur, on va dire, policière à tout ça. Effectivement, pour eux, c'est une grande nouveauté, faire des dossiers, des ordres de mission, des remboursements de frais.
Il sait ce que c'est que la police judiciaire. Absolument. Il sait mener un interrogatoire.
Absolument.
D'ailleurs, c'est lui, comme le disait notre auditrice, hein, c'est lui qui va beaucoup interroger les prisonniers de la Kerlingue.
Malheureusement pour eux.
Oui, au troisième degré. Ça, on va en parler tout à l'heure de la torture. Mm-hmm. Et c'est lui aussi qui tient les comptes, qui des registres.
Et c'est lui qui savait où allait l'argent, parce que Lafond donnait de l'argent en fonction. Et Bonny tenait parfaitement les comptes, d'où le drame que les archives aient été détruites. Oui. On en aurait su, à mon avis, ça arrangeait aussi beaucoup de gens après-guerre que les archives soient détruites, parce qu'on en aurait su assez long sur les besoins de chacun. Oui. Mais effectivement, c'est lui qui va apporter une forme de rigueur, entre guillemets, dans l'organisation de la Kerlingue, et effectivement, ce qui est une grande nouveauté, donc c'est une organisation mafieuse professionnelle, c'est presque un record.
Oui, alors c'est cette espèce de tandem avec l'un qui aime la fête, les femmes, le fric, qui fréquente les bordels, qui aime aussi briller en invitant le gratin parisien, puisque il aura quand même Maurice Chevalier à sa table, vous le rappelez dans votre livre. Bon, et puis l'autre, alors l'autre, c'est le rond de cuir, quoi.
Tout à fait.
Il n'est pas éclaté, hein, Bonny.
C'est un attelage très improbable. Hein. Les deux là, c'est vraiment, il n'y a pas plus dissemblable que ces deux-là. Et pourtant, ça fonctionne. Mais chacun a sa spécialité, chacun son domaine. Lafond restera un enfant de l'assistance publique. Donc, pour lui, tout ce qui brille le fascine. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est non pas l'argent pour l'argent. Il n'a jamais amassé d'argent pour lui-même. C'est pour éblouir, épater, obtenir ce qu'il veut. Et comme du fait que la Kerlingue a quand même une proximité avec les des Allemands, il est parfois plus facile d'obtenir quelque chose en passant par Lafont que de passer par l'administration. Parce que Vichy va vous dire, on va prendre votre dossier, mais on peut rien faire. Alors que vous allez voir Lafont, et pour peu que vous apportiez quelque chose d'intéressant, il dit, bah, je vais arranger le coup.
Une orchidée, par exemple.
Alors ça, c'était pour la...
Il était malade des orchidées.
C'était ses fleurs préférées, c'était les orchidées, mais ça, c'était réservé à la haute société. Pour l'équidame, c'était plutôt une enveloppe bien garnie, qui n'était pas forcément pour lui, mais pour l'organisation.
Alors, c'est une histoire vraiment à découvrir hein, dans ce livre que raconte David Alliot en détail. On va ensuite, et c'est un autre mérite de votre livre, c'est de nous faire comprendre, ça ne part pas dans tous les sens. Il y a une organisation, il y a une raison pour laquelle ces gens existent, d'abord, et c'est avant de traquer les résistants, et presque avant de traquer les juifs, c'est de traquer les gens qui ont de l'argent pour ramener cet argent à l'occupant. Alors, pourquoi, comment, pour quelles raisons, vous allez nous dire ça dans un petit instant. On fait une pause.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Le Festin des loups, c'est le titre du livre de mon invité David Alliot, livre qui vient de paraître à la librairie Vuibert. Les loups, ben, ce sont tous ceux qui sont partagés ce gâteau. Alors, il faut dire aussi une chose, et vous y revenez dans votre livre, hein, dès le début d'ailleurs, David Alliot, c'est que l'histoire est toujours plus compliquée que la manière dont on la raconte plus tard. C'est pas parce qu'il y a quelques voyous qui ont été membres de la Gestapo française que tous les voyous ont été pro-nazis. On sait que d'autres ont choisi le camp de la résistance. Bon, même Lafont, je sais pas si c'était une formule ou pas, mais enfin, vous citez un extrait d'une conversation qu'il a eu en disant finalement, si j'avais rencontré les Anglais d'abord, moi c'était oui. Le pognon qui m'intéressait, quoi. Il a pas des tanames, hein.
C'est les circonstances qui ont fait l'histoire qui a fait les circonstances. Oui. En parlant de la pègre, effectivement, on peut citer la pègre de Marseille, oui. Qui elle, par contre, s'est engagée au débarquement, ils ont tiré sur les Allemands sans aucun problème.
Voilà.
Ce qui a posé quelques problèmes après, parce que comme ils avaient presque une légitimité.
Après, il faut dire merci après.
Voilà, il faut dire merci. Donc forcément, il y a des contreparties, mais effectivement tous n'étaient pas et même vers la fin, certains de la rue Lauriston ont participé à la libération de Paris, ce qui n'était pas un paradoxe près. Ouais. Ça n'a pas pesé très lourd au moment des procès, par contre.
Il y a toujours des résistants de la dernière heure dans les conflits.
Hein, c'était des patriotes à leur façon.
Voilà. Alors, on revient à ces loups qui nous intéressent maintenant, c'est-à-dire ceux de la rue Lauriston, cette Gestapo française, ce tandem dont on a parlé entre Henri Lafont et puis ce flic donc
Pierre Beny.
Déchu Pierre Beny qui rejoint en 42. Alors entre-temps, Lafont, il a la nationalité allemande, il a des papiers allemands, donc là il est vraiment tranquille, quoi.
Complètement à l'abri de la police française. Il est intouchable.
Alors maintenant on se dit, mais pourquoi les Allemands ont favorisé l'existence de ce groupe? Et vous dites, et vous racontez l'histoire, je voudrais que vous nous la racontiez, c'est que les Allemands avaient créé un bureau d'achat. Mais pour acheter quoi ?
En fait, un petit peu de tout. Lorsque l'armistice est signé entre la France et l'Allemagne en juin 40, la France doit payer une indemnité phénoménale à l'Allemagne. C'est à peu près 400 millions de francs, pardon, de l'époque, par jour. Donc c'est considérable. C'est ce qu'on appelait les frais d'occupation. Ouais. Et en fait, derrière ça se cache le pillage de la France au profit de l'Allemagne. Parce que Hitler voulait... c'est pour ça que Hitler, d'ailleurs, a accordé un armistice à la France et que la France n'a pas subi le sort de la Pologne. C'est que Hitler avait besoin de d'une France, on va dire, à peu près debout, mais pas trop quand même, pour pourvoir à l'effort de guerre, parce que lui savait qu'il est l'effort de guerre qui allait porter vers l'Union soviétique.
Donc
que
toute la production des usines soit envoyée vers l'Allemagne, et les produits alimentaires, d'où les restrictions.
Voilà, restrictions au marché noir, et aussi il fallait plein d'autres choses, il fallait des métaux, il fallait des tissus pour les uniformes, et puis il fallait plein de choses pour la population allemande, donc tout ce qui pouvait être récupéré par ces bureaux d'achat devait l'être. Et effectivement, dans un premier temps, la Gestapo française arrive un petit peu plus tard, mais dans un premier temps, ce qu'ouvre Lafont, c'est un bureau d'achat où il achète à peu près tout, hein, ce qui est possible et inimaginable, surtout des métaux, principalement, des métaux, des tissus et autres, de l'or aussi.
Qu'il vend donc officiellement aux Allemands en prenant sa...
En prenant sa commission. Alors, en plus, l'avantage de la pègre, c'est qu'il s'approvisionne, l'autorité allemande ne veut pas trop savoir comment, et on peut supposer que ça n'a pas toujours été avec facture et paiement réglementaire. Donc, ils pillent à leur façon, de plus ou moins avec violence, et ils revendent ça après aux Allemands, avec, en prenant au passage un petit bénéfice. Mmh. C'est après, effectivement, qu'il va y avoir la deuxième partie, c'est la spoliation des Juifs, car effectivement, quand les Juifs sont déportés, bah, les appartements sont là, ils sont vides, et donc il faut des déménageurs. Donc vous pensez bien que pour déménager des grands appartements du 16e arrondissement, la pègre française est là, et surtout quand ils ont des tableaux et choses comme ça, donc ils peuvent se monnayer soit auprès des Allemands, parce que faut se faire bien voir aussi auprès de l'autorité allemande. Mmh. Donc comme ils savent que Göring et Hitler veulent créer des beaux musées, on fait des petits cadeaux, on offre des tableaux.
Ouais, et en échange, y compris des tableaux que d'autres pays ont confiés à la France. Je pense à ce tableau confié par la Belgique.
Hein, voilà, c'est Abel Bonnard qui. C'est pas du tout la Carlingue.
C'est pas la Carlingue.
Mais c'est Abel Bonnard qui était ministre de Vichy qui va donner c'était l'agneau mystique qui est exposé à Gand et qui va le donner alors qu'il était sous la protection française sur demande de la Belgique.
Ouais, qui va l'offrir à son camarade.
À son camarade Göring.
Et alors donc Lafont et les autres et Bonny, eux également couvrent de cadeaux les autorités allemandes parce
bien
que
sûr,
faut les petits cadeaux entretiennent effectivement
l'amitié.
L'amitié et le pouvoir.
Et en plus Lafont avait cette qualité humaine entre guillemets qui était qu'il connaissait très bien les travers humains et il savait que tout le monde pouvait être corrompu. Alors peut-être pas de la même façon, mais effectivement on pouvait offrir un petit cadeau ou se faire bien voir. Par exemple, il savait que à propos des tableaux, il savait que Göring était un amateur de tableaux. Donc, quand on récupère une belle pièce, on la donne à l'officier allemand, qui lui-même se fera bien voir de sa hiérarchie.
Alors, le 93 rue Lauriston, David Alliot, il est surtout connu parce que tout le monde sait, puis il y a des films, des livres là-dessus, qu'au sous-sol, effectivement, on torturait. Mmh. Et on va pas se faire plaisir en décrivant ces tortures. Mais la fameuse torture de la baignoire, c'est là que c'était pratiqué. Mmh. Et c'était pratiqué pour faire parler. Notamment des résistants. À quel moment il y a eu cette bascule? Parce que en fait, vous racontez une histoire. Vous disiez tout à l'heure que certains dignitaires allemands voyaient ça d'un mauvais œil, finalement, de travailler qu'un voyou, et qu'à un moment il a senti Lafont qu'il fallait qu'il fasse ses preuves. Et il savait que les Allemands recherchaient, sans pouvoir le trouver, un anti-nazi belge qui s'appelait Lambrecht, et que cet anti-nazi belge s'était réfugié à Toulouse. Et il va envoyer donc un commando, quoi, finalement.
Il va lui-même y aller.
Et en fait, à Toulouse, quoi.
Voilà, là, c'est au tout début vraiment de sa carrière, entre guillemets, où là, les Allemands sont pas très convaincus par Bonny et par Lafont plutôt au début. Et Lafont va apprendre par les réseaux de la pègre. Que effectivement, ce fameux espion anti-nazi belge était réfugié à Toulouse, donc en zone libre, hors d'atteinte des Allemands officiellement. Mmh. Et donc, c'est lui, de sa propre initiative.
Voilà. Et il le ramène pieds-poings liés.
Voilà. Il va à Toulouse, il le ramène pieds-poings liés. Et là, les Allemands sont stupéfaits parce qu'eux le cherchent partout. Ils ne le trouvent pas. Et là, c'est cette bande de voyous. Et là, c'est, on va dire, ça y est, ils ont compris que finalement. Faire appel à la pègre française, ça peut être très utile dans de très nombreux domaines. On va pas dire qu'il les apprécie particulièrement, on va pas dire qu'il les aime, mais il leur offre la protection et les laisse agir.
Ça conforte son pouvoir.
Absolument.
Et c'est ce qui fait que les Allemands vont aussi se servir de Lafont et de la Gestapo française pour aller traquer les maquisards dans les provinces. Mais ça, on en parlera tout à l'heure, si vous voulez bien. On va faire une pause et ensuite, ça sera une sorte de parenthèse, mais en fait, c'est la continuation de notre histoire. C'est qu'on va parler du docteur Petiot, que vous évoquez évidemment dans votre livre. Il a fait partie de ceux qui ont participé à ce festin des loups, puisqu'il a profité, en fait, de la peur qu'avait un certain nombre de gens d'être arrêtés par la Gestapo tout court, ou par la Gestapo française, et beaucoup de Juifs qui savaient que leur destin allait être funeste s'ils n'arrivaient pas à partir, et évidemment certains d'entre eux sont tombés dans le piège tendu par le docteur Petiot, dont je vous raconte l'histoire dans un petit instant.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
RTL. Où sont passés les disparus de la gare de Perpignan? Et les oubliés de la 6? Il n'y a rien de pire que de ne pas savoir. J'ai décidé d'enquêter et d'ouvrir toutes les portes, même si certains ne veulent pas voir ce qu'il y a derrière.
Disparu, le nouveau livre de Carl Zéro aux éditions de l'Archipel.
Hallucinant Carrefour.
Ils sont enfin de retour.
Jusqu'au 10 mars, chez Carrefour, profitez de promos hallucinantes sur des produits de grandes marques, comme le 1+1 gratuit sur le pack d'Evian par exemple. Oui, pour un pack d'Evian acheté, le deuxième est gratuit. Les jours hallucinants Carrefour, c'est
complètement hallucinant.
Carrefour, les prix bas, la confiance en plus. Produit signalé en catalogue ou en hypermarché. Pack de 6 fois 1 litre.
L'heure du crime sur RTL.
Nous sommes à Paris, sous l'occupation, le dimanche 12 mars 1944. Ce jour-là, un habitant de la rue Le Sueur, près des Champs-Élysées, prévient les pompiers. Il y a un feu de cheminée, dit-il, dans un immeuble à l'abandon, au numéro 21 de cette rue Cossue, située donc dans le 16e arrondissement. Une odeur pestilentielle flotte dans l'air, devenue irrespirable. Le propriétaire, un certain docteur Petiot, a été prévenu, mais il tarde à venir et ce sont les pompiers qui entrent d'abord dans un petit bâtiment comprenant un bureau, un couloir et un réduit sans fenêtre qui ressemble d'ailleurs étrangement à une cellule. À côté, il y a un cellier qui sert de débarras. Et c'est au sous-sol de la maison que les pompiers vont découvrir une scène d'horreur. Des ossements humains, des corps à demi décomposés, des membres épars. Dans la chaudière, des morceaux de cadavres à l'origine de l'odeur nauséabonde signalée par les voisins. Les premiers enquêteurs de la police découvrent derrière une double porte équipée d'un judas une chambre à gaz. Plus loin, un puits rempli de cadavres recouverts de chaux vives et puis encore un vestiaire lugubre qui abrite un empilement de malles et de valises par dizaines. Le commissaire Massu de la brigade criminelle du 36 quai des Orfèvres prend la direction de l'enquête. Il se rend aussitôt au cabinet du docteur Petiot, rue Caumartin, dans le 9e arrondissement, où cet homme exerce depuis 1933. La femme du médecin tombe des nues. « Mon mari, ben non, il est absent. Il a été appelé hier, dit-elle, sans doute un accouchement difficile. » Le policier comprend que le docteur Petiot a pris la fuite. L'enquête révélera la personnalité étrange d'un homme né en 1897, ayant connu par le passé des épisodes délirants qui l'ont conduit à plusieurs reprises en asile psychiatrique. Il a été soupçonné également d'un certain nombre de morts suspectes dans son entourage, mais il a toujours échappé aux poursuites parce qu'il était aussi un notable. Il avait été pendant plusieurs années maire d'une petite commune de Lyon. Et lorsqu'il s'établit rue Caumartin à Paris en 1933, sa réputation est celle d'un bon docteur, un peu original certes, mais pratiquant une médecine de pointe. En quelques mois, c'est le succès, sa clientèle est nombreuse, les affaires sont florissantes, ce qui lui permet d'acheter bientôt le petit immeuble de la rue Le Sueur, où il a aménagé la cellule où périront ses victimes, en majorité des Juifs désirant quitter la France, à qui il a fait croire qu'il était à la tête d'un réseau de résistance. Malgré la fuite de Petiot qui reste introuvable, l'enquête du commissaire Massu accumule les preuves incontestables de ces assassinats. On a trouvé rue Le Sueur 26 sacs à main, 21 manteaux de laine, 33 cravates, 43 paires de chaussures, 79 robes, au total 1760 pièces d'habillement. Petiot sera finalement arrêté dans des circonstances rocambolesques le 31 octobre 1944 sous le pseudonyme de Valérie. Il s'était réfugié dans un réseau de résistants bien réel, celui-là, où il occupait la fonction de médecin capitaine. Il avait expliqué à ces gens que son propre réseau, baptisé Flytox, avait été démantelé par les Allemands et qu'il devait donc se cacher. Le procès du docteur Satan, comme l'appelle la presse, s'ouvre le 18 mars 1946, il fait la une de tous les journaux. Il est officiellement accusé de 27 meurtres, mais il en revendique fièrement 63, dès le deuxième jour d'audience. Et qui étaient ces victimes, demande le président de la cour d'assises? Des traîtres à la France? Des collabos? Des nazis, déclare-t-il. Car Petiot n'est pas un vulgaire assassin. Il est, dit-il, le chef d'un réseau de résistance, le fameux réseau Flytox. Personne n'en a entendu parler? Ben, normal. C'était la guerre. Toutes les personnes qu'il a citées comme étant ses contacts dans la résistance sont mortes ou inconnues. Normal, c'était ça la résistance. Et Petiot construit tout son système de défense autour de ce mythe. De toute évidence, il connaît bien les réseaux. Alors d'où tient-il ces renseignements? Personne ne le sait, ni ne le saura jamais. C'est une des zones d'ombre de ce procès. Mais Il a beau se défendre d'avoir tué pour la France, il n'en reste pas moins qu'un grand nombre de ses victimes juives étaient parfaitement innocentes et peu suspectes d'être des collabos. Les juges ne s'y laisseront pas prendre. Petiot est, selon les experts, un psychopathe. Il a seulement profité de toutes les opportunités que cette période troublée lui fournissait. Le 4 avril 1946, à minuit 10, malgré une défense brillamment menée par son jeune avocat, Maître Floriot, Petiot est reconnu coupable de 24 des 27 meurtres qui lui sont reprochés. Il est condamné à la peine capitale et exécuté dans la cour de sa prison le 25 mai à 5h05. En le conduisant à l'échafaud, Maître Floriot lui demande de dire enfin la vérité. Réponse du condamné, « Maître, je suis un voyageur et j'emmène avec moi tous mes bagages. » Petiot a ainsi emporté tous ses secrets dans la tombe. Alors voilà, il fallait évoquer ce personnage hein, à qui vous consacrez un chapitre de votre livre. Avant qu'on revienne à la bande de Lafont, quel a pu être le point de contact entre Petiot et la Gestapo française?
Malheureusement, du fait d'archives, on va dire lacunaires, on ne sait pas trop. Par contre, il faut pas oublier que la rue Le Sueur et la rue Lauriston sont très proches. Je l'ai faite il y a pas longtemps à pied. Sûr, oui. C'est vraiment à deux pâtés de maison. Mais en fait, quand vous dépouillez les Juifs, c'est ce qu'a fait Petiot notamment, à un moment donné, il faut recycler certaines choses et peut-être qu'ils sont passés par Lafont. Et en fait, la seule trace réelle que l'on a, c'est un témoignage, donc à prendre avec des pincettes, une phrase que Lafont aurait dit à un des membres de son entourage, dit, confiez-le à Petiot, il saura quoi en faire. Et donc on suppose que Lafont savait ce qui se passait rue Le Sueur et en fait on sait qu'il a voulu se débarrasser, il y avait un de ses gars qui s'appelait Le Basque, il a voulu s'en débarrasser, le type voulait partir en Espagne, il a dit va chez Petiot, il va t'emmener.
Tout ça évidemment avant l'arrestation de Petiot et avant que Petiot fasse la une des journaux.
On est en 42-43. Et donc Lafont avait dit à son gars qu'il voulait se débarrasser, qui s'appelait Le Basque, il dit écoute tu veux passer en Espagne, va voir Petiot, il va arranger ça. Et on n'a eu aucune nouvelle du gars et on sait
donc,
pourquoi ?
Oui, peut-être que Petiot avait effectivement arrangé ça.
On suppose que Petiot faisait les basses œuvres de la carlingue et que... Voilà.
Alors, une pause, une dernière pause, et ensuite on va revenir à cette autre activité de la Gestapo française, la traque des maquisards dans un certain nombre de régions de France, aidée par une étrange brigade nord-africaine.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Et nous retrouvons David Alliot. David Alliot, donc, est l'auteur de ce livre, Le Festin des Loups, paru à la librairie Vuibert, collabo profiteur opportuniste sous l'occupation. 14 chapitres, nous rappelle un auditeur qui vient nous envoyer un courriel. 14 chapitres qui sont des portraits, en fait, de ces loups qui ont participé à ce festin. On revient à Henri Lafont, à la carlingue, à Bonny aussi. Et alors, précaution oratoire, mais la même que celle que j'ai utilisée au début pour dire que, évidemment, tous les malfrats n'ont pas été du côté des Allemands, tous les militaires n'ont pas été collaborationnistes, tous les hommes politiques non plus. Tous les musulmans non plus. Alors, il faut le dire parce qu'il y a eu cette histoire, j'ai découvert dans votre livre, je ne connaissais pas, l'histoire de la brigade nord-africaine. Et ce qui vous permet de rappeler que Hitler, qui n'en ratait pas une, si j'ose dire, avait également fait beaucoup de propagande dans le monde musulman, puisque le grand mufti de Jérusalem avait été reçu à Berlin.
Reçu et il était hébergé même à Berlin.
Hébergé, oui, reçu et hébergé.
C'était effectivement la plus belle prise de guerre entre guillemets dans le monde musulman par Hitler. Parce qu'en fait, c'est un raisonnement tout très simple, c'est que Hitler pensait que les musulmans étaient tous antisémites du fait que du fait de l'histoire, quoi. Donc sur ce point-là, il s'est un petit peu trompé, mais il y a eu une politique très active dès 40. Alors, faut dire historiquement, l'Allemagne n'a pas grand lien avec le monde arabe, mais à partir des années 40, ils vont essayer, avec pas beaucoup de succès, hein, faut quand même le reconnaître. Ils vont notamment voir voir Habib Bourguiba, le futur premier président de la République tunisienne, qui lui va se méfier complètement.
Mais en fait, leur message, c'est de dire Hitler va vous aider à vous débarrasser des nations coloniales.
Il leur promet l'indépendance.
Qui vous occupe et il leur promet l'indépendance.
Mais quand on sait l'indépendance, entre guillemets, que pouvaient avoir certains pays européens sous la botte allemande, on peut comprendre qu'ils étaient extrêmement. C'est quitter Pétain pour se retrouver avec Mussolini ou Hitler. Donc,
Alors, qu'est-ce que c'est que cette brigade nord-africaine qui va se constituer parce qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, on a dit qu'il avait des papiers allemands, la nationalité, etc. Il avait même un grade dans l'armée allemande, de la Wehrmacht.
Un grade dans l'armée allemande.
Lafont.
Pas Bonny.
Il était quoi officier
Hauptmann, je crois, officier, sous-lieutenant, un truc comme ça. Et en fait, ça va être la dernière étape de la carlingue. Donc au début, ça commence par le pillage économique. Après, c'est la traque des résistants, la spoliation des juifs. Et la dernière étape, ça va être donc fin 43. Là, les maquis commencent à être un petit peu beaucoup plus vigoureux. La résistance est beaucoup plus active. Et là c'est Bonny, c'est Lafont, pardon, qui lui-même va proposer aux Allemands de constituer une sorte d'armée privée. Et ça va être la brigade nord-africaine. Et il avait rencontré donc un militant, on va dire, de l'indépendance algérienne. Et il va, Mohamed Al-Mahdi, ils vont constituer une armée. Alors, au début, il y a des ambitions assez délirantes de 5000 soldats. Et en fait, ça va finir plutôt à ça va être 400 soldats.
Dire une chose que j'ai découverte aussi dans votre livre, c'est que quand on parlait de la jeunesse de Lafont, il avait été envoyé, comme on faisait avec les fortes têtes, comme on disait à un moment, dans les bataillons d'Afrique et en Afrique du Nord. Au Baddaf. Et il avait fait la connaissance, il respectait beaucoup et il admirait beaucoup les soldats nord-africains qu'il avait fréquentés à l'occasion de son passage en Algérie.
Pour leur bravoure, etc. Voilà. Donc il avait, on va dire, un fond de tendresse pour... il faut dire, leur situation pendant l'occupation n'était pas franchement très florissante, puisque le lien avec leur pays natal, l'Algérie et la Tunisie, étaient coupés du fait de la guerre. Et ils étaient là en train de survivre péniblement dans Paris. Donc il a cette idée de constituer cette armée privée, d'abord pour traquer les résistants, mais il avait aussi des arrière-pensées. On ne sait jamais ce qui peut se passer. S'il a une armée privée, on peut négocier quelque chose ou se tailler un petit royaume.
Alors ça va être un échec, mais que certains vont payer très cher parce qu'ils vont aller notamment en Corrèze, dans la ville de Tulle.
Les auditeurs, effectivement, du centre de la France, dans le Limousin, eux, effectivement, à Paris, c'est beaucoup moins connu. Mais dans le centre de la France, ils s'en rappellent. Parce qu'effectivement, là, c'est. À l'origine, ça devait être une armée, mais en fait, les types qu'ils ont récupérés dans les bas-fonds de Paris, c'était plutôt de la racaille, faut le dire clairement. Du pillage. Et en fait, assez paradoxalement, loin d'avoir calmé les maquis, dès qu'ils arrivaient dans une ville, ça renforçait les maquis parce que leurs exactions ont quasiment soulevé la population contre eux. Et ça a été une catastrophe totale. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens ont été torturés, certains sont morts, effectivement, fusillés. C'était le carnage quand même.
Alors ça, tout ce qui s'est passé pendant ces quatre années, beaucoup de choses autour du personnage de Lafont, qui, juste avant le débarquement, est un homme riche, adulé.
Puissant.
On avait parlé des comtesses de la Gestapo. On peut en dire un petit mot
Oui.
Ça fait partie de sa vie aussi.
Bien sûr.
Celle du deuxième étage de la rue Lauriston.
Mais en fait, quand vous avez l'argent, le pouvoir et toutes ces choses-là, forcément, ça attire des gens auprès de vous, une cour. Et Lafont, comme fils de l'assistance publique, n'était pas insensible aux jolis titres, aux titres à particules. Et en fait, c'était souvent des femmes, des Russes blanches, souvent des noblesses, on va dire, petite noblesse, mais avec des noms très prestigieux, parce que la vraie noblesse...
Des argentés, mais on savait qu'il avait le geste facile.
Et donc, en fait, le but du jeu, c'était de passer une ou deux nuits, ou trois nuits, voire plus, avec les malfrats de la rue Lauriston, et de récupérer un peu de magot, et de repartir, on va dire, d'un pas plus assuré dans la vie. Donc, effectivement, ce sont ces belles femmes qui gravitaient autour de Lafont.
Alors, arrive le débarquement, arrivent les troupes françaises, pour le coup, qui vont libérer Paris. Il comprend ce qui va se passer.
Ah oui, mais ils comprennent tous. Et d'ailleurs, la période du 6 juin, donc du débarquement jusqu'à fin août, ça va être même
la débandade.
La débandade, mais aussi avant de partir,
on brûle les documents.
Et surtout, on fait le plein. Les méthodes deviennent de plus en plus expéditives. Là, c'est plus question de procédure et de méthode, on prend l'or où elle est. Et il y a eu un cas donc de meurtre début août, absolument affreux, où deux femmes ont été finies à la batte de baseball quand même pour soutirer de l'argent et de l'or, etc.
Femme très connue, une actrice.
Une actrice de l'époque qui effectivement a été torturée et massacrée dans des conditions abominables. Donc là, c'est avant de fermer, on essaye de mettre un maximum de blé.
Pour aller où alors? En Allemagne?
Non, surtout pas.
C'est-à-dire, en Espagne.
Alors beaucoup veulent gagner l'Espagne, certains vont y arriver. Beaucoup vont se disperser dans la nature et d'ailleurs ailleurs où certains vont continuer leur carrière de malfrats, c'est les fameux gangs des tractions avant, après-guerre, Abel Danos, Pierre Loutrel, Abel Danos qui va continuer jusqu'en 52, et d'ailleurs beaucoup vont finir exécutés, mais ils vont être condamnés pour d'autres choses, mais c'est vrai que leur passé de la rue Lauriston ne va pas plaider en leur faveur. Certains vont s'engager brièvement dans la résistance, mais quand ils vont comprendre que ça, c'est, ils sont pas franchement en odeur de sainteté, ils vont vite décamper, et beaucoup vont créer des petites affaires, il y a beaucoup de petits bistrots dans la province, dans des endroits très reculés, où ils vont se recycler, se mettre au vert, et puis rester souvent.
Alors, lui, Henri Lafont, il choisit pas ni l'Allemagne, ni, ni l'Espagne. Je renvoie vraiment les lecteurs à votre livre, parce que vous le racontez dans le détail. En fait, il va en Seine-et-Marne, dans une ferme, pour des raisons que vous expliquez, il va être balancé, en fait, par quelqu'un. Il va pour une fois qu'il donne quelque chose.
Oui. Bon, par Johann Ovici.
Par Johann Ovici, mais on n'a pas le temps de raconter qui était Johann Ovici.
Personnage emblématique, très intéressant aussi.
Et il va être donc arrêté, il va assumer, finalement, avec assez de courage, le peloton d'exécution, et il va être fusillé en compagnie de l'inspecteur Bonis.
L'inspecteur Bonis.
En décembre 1944.
Parce que ce qui est important de dire, c'est que ça va se passer très vite. Entre l'arrestation donc, qui a lieu en septembre 1944 et leur exécution en décembre, il y a trois mois. Et c'est ça le drame.
Certains auraient souhaité un procès un peu plus long.
Un peu plus long, une enquête beaucoup plus longue. Ça aurait été certainement très intéressant.
Oui, mais manque de chance.
Je crois que ça arrangeait beaucoup de gens aussi.
Absolument. Ce qui est, au passage, on peut dire aussi que ce qu'on a appelé le trésor de la Gestapo française a disparu.
Peut-être pas pour tout le monde, mais tout le monde, il a disparu, oui.
Je vous remercie beaucoup. Votre livre est absolument passionnant.
C'est moi.
Merci David Alliot. Le festin des loups, collabo, profiteur, opportuniste sous l'occupation. C'est un livre à lire. Si vous intéressez à cette période, évidemment, de notre histoire, il est paru à la librairie Vuibert. L'émission est terminée. On retrouve Flavie Flamand dans quelques secondes.